En 2014, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, lançait un nouvel outil, la liste rouge des écosystèmes. Sur le modèle de la liste rouge des espèces menacées, eh bien cette liste a pour but d'identifier les écosystèmes les plus vulnérables et pour lesquels des actions urgentes de conservation sont nécessaires. Dans cette liste figurent les forêts françaises, qui représentent 31% du territoire national et qui sont au cœur d'enjeux majeurs face aux crises climatiques et écologiques. Quel est l'état de santé de nos forêts? Comment les préserver? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi en partenariat avec le comité français de l'UICN. Et pour en parler, nous sommes en studio avec vous, Clémentine Azam. Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex avec Thierry Gauquelin depuis les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Clémentine Azam, vous êtes chargée de programme écosystème à l'UICN. Thierry Gauquelin, vous êtes vous écologue des forêts, professeur émérite à Aix-Marseille Université, au laboratoire Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. Et vous êtes l'auteur d'un livre, Des arbres et des forêts, aux éditions de l'Harmattan, dictionnaire pour comprendre ces fabuleux organismes vivants. On va se retrouver dans un instant donc pour en parler avec les messages, questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec bien sûr le mot-clé, l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À 14h30, on passe au vert.
Avec un sujet qui vous passionne Mathieu, je le sais,
oui.
L'Euro de football qui a commencé vendredi. La France, vous le savez, c'est vous qui me l'avez appris, joue son premier match ce soir. Euro de foot dont l'impact carbone interroge parce qu'il se joue dans 11 pays.
14h45, ce sera le deuxième épisode du feuilleton de Caroline Gillet consacré aux conditions de vie des gens du voyage en périphérie lilloise. Et puis dans la chronique de reporter, Lorraine Lavocat nous dira quel est le rôle des régions dans la transition écologique. Valérie Ayestarey réalise cette émission préparée par Anna Massardier avec à la technique Ludovic Asselot.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
La France et ses forêts d'exception. En 100 ans, elles ont été multipliées par 2. Chaque année, 90 000 hectares sortent de terre, soit 9 fois la taille de Paris. La France arrive en 4e position au classement des grandes surfaces boisées en Europe, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne.
Voilà, sujet d'introduction de France 24 en mars 2019, comment préserver les forêts françaises, même si apparemment elles se portent pas si mal, puisqu'elles ont doublé en 100 ans, dossier de l'émission, avec le comité français de l'UICN, Clémentine Azam et Thierry Gauquelin. Clémentine Azam, est-ce qu'il faut se réjouir justement de ce doublement de la superficie des forêts? Qu'est-ce que ça dit au fond ce chiffre?
Ce chiffre en fait est symptomatique d'un changement en fait des activités humaines, des pratiques agricoles, notamment dans certaines régions de France où on a eu affaire à une exode rurale assez importante et on observe une déprise agricole qui font que finalement la forêt regagne du terrain certains espaces qui avaient été historiquement défrichés. Mmh. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la forêt. Après, il faut bien considérer qu'on a affaire à des forêts qui sont relativement jeunes et donc qui n'ont pas nécessairement le fonctionnement et la complexité écologique d'une forêt plus mature. Donc il faut attendre encore pour vraiment avoir l'ensemble des fonctionnalités écologiques associées à la forêt qui soient dans ces accrus forestiers.
Oui, on va y revenir avec vous dans un instant. Un mot d'abord sur la liste rouge des écosystèmes lancée donc en 2014. C'était quoi l'idée au fond de ce nouvel outil là? C'était évaluer l'état de santé justement des forêts?
C'est ça. C'est en fait en complément en fait de la liste rouge des espèces menacées. L'idée c'est donc vraiment d'apporter en fait une dimension écosystémique et fonctionnelle en fait à l'état des connaissances sur la biodiversité. Donc c'est-à-dire pour pouvoir en fait compléter les différents outils d'aide à la décision pour la conservation les différents outils qu'on peut avoir, pouvoir avoir aussi des outils qui vont nous informer sur l'état du fonctionnement des écosystèmes, donc avec une approche plus basée sur les processus écologiques et sur les écosystèmes.
Ouais, alors c'est une liste qui est complémentaire de celle que le public connaît bien, la liste rouge des espèces menacées?
C'est ça, ouais. Elle est complémentaire et elle peut aussi s'alimenter dans le sens où on peut aussi, dans la liste rouge des écosystèmes, on peut aussi regarder l'état de conservation et le statut de certaines espèces qui peuvent avoir un rôle essentiel au sein des écosystèmes. Ça peut être les essences d'arbres dominantes au sein d'un écosystème forestier ou une espèce clé de voûte. Et donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait se référer aux listes rouges des espèces menacées pour aller voir justement comment cette espèce-là, dans quel état elle se trouve.
Et dans cette liste rouge des écosystèmes, donc, vous avez porté une attention toute particulière aux forêts ?
Oui, on a porté une attention particulière aux forêts parce que, en particulier pour la France, pour la France métropolitaine, ça recouvre quand même 31% du territoire national. Et en plus, ce sont des habitats qui sont vraiment au cœur des enjeux de transition écologique et transition climatique à l'heure actuelle. Donc, ouais. Il mérite qu'on y porte toute notre attention.
Alors, c'est vrai que pour nos amis auditeurs, on va surtout parler de la forêt métropolitaine aujourd'hui, puisqu'on va consacrer le 1er juillet prochain une émission entière à la forêt tropicale, donc plutôt dans les Outre-mer. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le territoire national. Thierry Gauquelin, c'est quoi finalement une forêt en bonne santé, alors?
Alors, une forêt en bonne santé, c'est une forêt qui fonctionne bien. Parce que une forêt, c'est donc un écosystème. Un écosystème, c'est une communauté d'organismes qui sont tous en interaction. Et donc, la forêt, donc, qui fonctionne bien, c'est une forêt qui, à la fois, aura un cycle biogéographique, biogéochimique intéressant, mais aussi un autre aspect évidemment qui est important par rapport au changement climatique, c'est une forêt qui sera résiliente, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler,
oui.
Par rapport à cette menace du changement climatique. Mais j'insiste sur le fait que quand ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre tous les organismes qui se trouvent dans cette forêt. Et ça, c'est fondamental à ce niveau-là.
Il y a déjà pas mal de questions, on va en donner quelques-unes avec Camille dans un instant. Juste une question, Thierry Gauquelin, est-ce que ce qui caractérise la forêt française, c'est sa très grande diversité ou pas ?
Alors, c'est l'un des aspects, bien sûr, à partir du moment où sur notre territoire métropolitain, on a des conditions écologiques qui sont extrêmement diverses. On a des milieux continentaux, des milieux océaniques, le domaine méditerranéen, les milieux de montagne, les milieux littoraux, etc. Donc ça fait toute une mosaïque de milieux extrêmement différents. Et finalement, la forêt va répondre à cette diversité en se diversifiant aussi d'une façon considérable. Et effectivement, la forêt française est une forêt qui est très diversifiée.
Mais on trouve aussi beaucoup de monocultures quand même dans la forêt française. Il n'y a pas que ça, Camille, c'est l'objet d'une question.
Ils sont sur Facebook, sur la page de la Terre au Carré, qui voudraient savoir justement dans les 31% dont vous parliez, Céline Azam, combien représente la monoculture, notamment de résineux.
C'est difficile.
Clémentine Azam, pardon.
Oui, Clémentine. On estime que majoritairement les forêts sont des forêts de feuillus en France, donc avec plus de 60% des forêts qui sont feuillues, et on estime à du coup environ 15% de forêts mixtes, donc mélange feuillus conifères, et donc faut calculer ce qui reste, une vingtaine de pourcents de forêts de conifères. Et au sein de ces forêts-là, il y a des forêts de conifères naturelles, de montagne, et les plantations en monoculture.
Parce que Thierry Gauquelin, en doublant justement la superficie en 100 ans, est-ce qu'on a gagné en diversité ou pas? Parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission, il y a quand même beaucoup de monoculture aussi hein, sur certaines essences.
Alors, on a gagné en... Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, comme le disait Clémentine, l'augmentation des superficies forestières, elle est essentiellement due aujourd'hui à une recolonisation naturelle par des espèces naturelles qui s'installent. Bien sûr, on a eu à la fin du 19e siècle la restauration des terrains en montagne et puis jusqu'aux années 1960, ce qu'on a appelé le Fonds forestier national, où là, on a eu beaucoup de reboisements avec des résineux, etc., quelquefois des résineux exotiques d'ailleurs. Mais aujourd'hui, eh bien, toute cette nouvelle forêt qui apparaît, oui. Eh bien, c'est une forêt naturelle avec des espèces spontanées qui, peu à peu, donc, en même temps que cette forêt va évoluer, va vieillir, eh bien, va gagner en diversité, va gagner en fonctionnement.
On a beaucoup de messages, un autre par exemple de Patrick sur franceinter.fr qui dénonce un peu l'exploitation. Les gens entendent ce que vous êtes en train de nous expliquer tous les deux, mais disent voilà, il y a beaucoup d'exploitation et ce sont des forêts de loin, on dirait des forêts, sauf que les arbres sont tous coupés jeunes, donc si on parle des résineux en particulier, il y a quand même, Clémentine Azam, cette réalité qu'il y a énormément aujourd'hui de forêts qui ne sont plus, on peut dire comment, en libre évolution.
Oui, ça c'est sûr. En fait, quand on parle de tous ces chiffres-là, on est sur des moyennes nationales et des chiffres à une échelle nationale, des tendances au niveau global. Et ensuite, il y a tout un tas de spécificités régionales avec, en effet, certaines régions où on peut avoir des exploitations beaucoup plus intensives par rapport à d'autres.
On va partir en Alsace, justement, pour parler du phénomène de la sécheresse qui concerne l'ensemble du territoire, mais une forêt en particulier, c'est la forêt de la Harte, qui a connu plusieurs épisodes majeurs de sécheresse. En 2019, France 2 y avait consacré un reportage. On va entendre Bruno Gaston de l'ONF et Nathalie Breda, qui est directrice de recherche à l'INRA.
Ici, vous avez un chêne donc avec des branches sèches en bas. Quand le chêne commence à dépérir, c'est que la forêt souffre vraiment du manque de pluie. On a presque un arbre sur trois qui est mort ou qui va périr dans l'année prochaine. On voit bien là, 90% de gravier, quoi. Donc on a très peu de réserves utiles en eau. Si les sécheresses continuent dans les années à venir, la forêt de la Harte est mal partie, quoi.
On constate malheureusement que la fréquence des événements de sécheresse capables d'induire des dépérissements va pratiquement doubler en fin de siècle.
Voilà, Clémentine Azam. Pour parler des menaces qui pèsent sur la forêt française, donc de métropole, la sécheresse, ça c'est vraiment l'un des problèmes numéro un à traiter?
Oui, c'est vraiment un des enjeux majeurs, en tout cas, ou plus généralement les impacts des changements climatiques sur les forêts, donc que ce soit par des épisodes de sécheresse à répétition, donc qui entraînent en effet un stress hydrique pour les arbres et des phénomènes de dépérissement, et ensuite aussi des changements de moyenne de température, une augmentation des températures qui entraînent des déplacements en fait des aires bioclimatiques des essences. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines essences qui ne sont plus ou ne vont plus être dans un relativement court terme, en mesure de se maintenir dans une station donnée.
Mais ça veut dire qu'elles vont bouger ?
Il y a un phénomène de migration qui peut être fait naturellement, en effet, par les mécanismes de dispersion de graines et de pollen pour favoriser, en fait, disons, une forme de flux de gènes, disons. Mais globalement, autour des forêts, on a aussi un phénomène de fragmentation des paysages avec une urbanisation, une agriculture qui peut être aussi intensive et qui freine finalement les capacités de déplacement de ces espèces. Donc on peut se retrouver avec des espèces qui auront du mal en fait à s'adapter au changement climatique parce qu'elles ne vont pas finalement migrer suffisamment rapidement.
Lesquelles par exemple, un ou deux exemples?
Si on prend certains exemples, par exemple, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du hêtre, autour du chêne pédonculé ou encore du sapin.
Ouais. Thierry Gauquelin, la sécheresse, donc ça crée ce qu'on appelle un stress hydrique chez l'arbre. Comment ça fonctionne à l'échelle de la forêt, justement? Est-ce qu'on a vu des forêts disparaître entièrement sur notre territoire à cause de ce problème?
Alors, on voit des forêts, je pense que l'exemple, par exemple, des forêts d'épicéas dans les Vosges, etc. Mais là, dans ce cas-là, c'est lié à des attaques d'insectes, etc. Mais moi, je ne connais pas d'exemple où, c'est du simple fait de la sécheresse, si vous voulez, on a eu une disparition complète de la forêt. Et ça, ça pourrait exister si effectivement on avait des forêts qui sont monospécifiques, donc constituées d'une seule espèce, et encore pire de clones. Et à ce moment-là, vous n'avez aucune diversité génétique à ce moment-là au niveau donc des arbres. Mais c'est justement un point très important, c'est que une forêt, j'allais dire, qui se respecte doit avoir au niveau de ces arbres, une diversité génétique importante au sein de la même espèce, et bien sûr avec des espèces différentes, et au sein de la même espèce, de façon justement à ce que les arbres, ils n'aient pas tous exactement le même comportement au même moment, et que certains vont être un peu plus résistants à la sécheresse que d'autres, etc., à l'intérieur d'une même espèce.
Allez, on y revient dans un instant, dossier de la Terre au carré sur l'état de santé des forêts en métropole, avec le comité français de l'UICN.
Je me défile d'actualité. rêver dans mon meilleur. Je n'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver dans mon meilleur. Je n'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
Mon meilleur, c'était votre chanteur préféré, Camille Hervé.
Du moment, il est en train de répéter en ce moment, faut le dire, en bas de la maison de la radio à Paris.
Ça vibre même dans le studio.
Parce que demain soir, il y aura l'inauguration, le baptême de la maison de la radio et de la musique désormais avec donc Hervé, Jean-Louis Aubert, Youssoupha et aussi l'Orchestre National de France.
Et c'est un concert pour le public qui passera dans le coin.
À partir de 16h et place libre, mais bon, voilà. Faut arriver tôt, puis évidemment, il y a une jauge. Hein.
Donc vous pouvez pas le louper, c'est juste en face du hall scène de la maison de la radio. Ouais.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà, Clémentine Azam de l'UICN et Thierry Gauquelin pour nous parler des forêts françaises. Un mot quand même sur, puisqu'on parlait des menaces, Clémentine Azam, des menaces qui pèsent aussi quand même sur les territoires d'outre-mer, parce que la déforestation, évidemment, ça c'est aussi un des problèmes numéro un. Hein.
Oui, notamment. Et c'est vrai que, voilà, si c'est pas forcément le sujet majeur au niveau français, au niveau métropolitain, pardon, c'est vrai que sur certains territoires d'outre-mer, notamment sur l'île de Mayotte, par exemple, il y a vraiment des taux de déforestation massive avec des taux qui sont en fait similaires à ce qu'on peut observer dans certaines régions d'Afrique ou en Indonésie. Et donc, voilà, qui nécessitent vraiment des mesures de conservation et des actions fortes pour justement enrayer ce phénomène de déforestation qui pose des enjeux énormes aussi pour les Maorais et pour les populations qui vivent sur place, notamment en termes d'approvisionnement en eau potable.
Ouais, et la Guyane, parce que vous n'en parlez pas volontairement, parce que la déforestation en Guyane française n'est pas réellement le problème principal.
Je pense que pour ce qui est de la Guyane française, encore une fois, il y a des enjeux de déforestation énormes en Guyane. Je pense qu'on est plutôt sur des enjeux d'encadrement de l'orpaillage et de l'orpaillage illégal. Et donc avec un besoin de renforcement des capacités de protection de ces espaces, en fait, et des espaces protégés en Guyane pour justement limiter les effets de cet orpaillage.
Et la pollution inhérente, évidemment, à ces pratiques. Camille, beaucoup de questions. Hein.
Nils, sur franceinter.fr, nous écrit qu'ici, en Auvergne, là où il est, le reboisement naturel se fait au détriment des prairies et donc d'une biodiversité importante. Ne faudrait-il pas intervenir, nous demande-t-il Thierry Gauquelin.
Alors ça, c'est une grande question. C'est la question, effectivement, des milieux ouverts qui peuvent être extrêmement intéressants à la fois pour les activités pastorales, mais aussi au niveau de la biodiversité. Je pense notamment, par exemple, aux pelouses avec des orchidées, etc. Et voilà, ce sont des milieux qui existent parce qu'il y a eu une action de l'homme ancienne sur ces milieux-là. Et effectivement, la déprise pastorale et agricole dont on parlait, donc qui permet à la forêt de regagner, eh bien, on est dans une autre dynamique. Ça a un nombre d'avantages, par exemple au niveau de la fixation du carbone, de choses comme ça. Mais il est évident que, voilà, et certainement, il y a un équilibre à trouver entre le maintien de milieux ouverts, de pâturages, de prairies, etc., et la forêt qui regagne un peu partout. Voilà, c'est une question aussi, c'est une question sociétale. Est-ce qu'on pourra partout maintenir des milieux ouverts en maintenant du pâturage? Je pense qu'il faut le faire dans certains cas, ne serait-ce que pour des raisons économiques, écologiques au niveau de la nourriture, etc., par des... question de nourriture, pour la viande. Mais voilà, c'est une question importante, mais à la limite qui dépasse finalement des simples enjeux en termes d'enjeux forestiers.
Clémentine Azam, pour compléter là-dessus, vous vouliez vous exprimer?
Non, mais finalement, ça rejoint ce que disait Thierry. C'est vrai que en France et plus généralement en Europe, on est aussi dans un contexte où on a des écosystèmes en fait qui ont été profondément façonnés par des activités humaines, mais à des temps vraiment historiques, des temps très anciens. Et c'est vrai que voilà, le fait en fait d'avoir certaines pratiques humaine qui diminue, qui notamment certaines pratiques agricoles, ça entraîne la disparition de certains habitats qui maintenant depuis le temps en fait abritent une biodiversité tout à fait riche et intéressante.
Est-ce qu'il y a des forêts en France particulières en métropole qui figurent justement sur la liste des écosystèmes forestiers en danger?
Oui, tout à fait. Notamment, donc, alors, on n'a pas fini d'évaluer toutes les forêts en France.
Oui.
Donc, on a terminé en fait les forêts méditerranéennes. On est en train de réaliser les forêts de montagne et on avait fait quelques tests sur certaines forêts de plaine. Mais pour ce qui est des forêts méditerranéennes, sur les 19 écosystèmes que l'on avait évalués, on en avait seulement 3 qui étaient dans un état de conservation, qui étaient classés en least concern. Donc, finalement, avec un niveau de menace identifié assez faible.
Oui.
Finalement, tous les autres, donc il y en avait 4 écosystèmes qui étaient vraiment en danger et 7 qu'on nous avions classés en quasi menacés.
Oui. Alors Thierry Gauquelin, qu'est-ce qui menace votre forêt méditerranéenne puisque c'est de là d'où vous nous parlez, hein ?
Oui. Alors la forêt méditerranéenne, eh bien effectivement, elle est comme toutes les forêts donc menacées par le changement climatique. Mais ce qui est tout à fait intéressant au niveau de cette forêt méditerranéenne, c'est que du fait que c'est une forêt qui se trouve sous un climat méditerranéen qui est donc marqué par cette période sèche estivale à une période de l'année où il fait chaud, eh bien c'est en fait une forêt qui est constituée par des espèces qui sont en quelque sorte adaptées déjà à ce stress hydrique, à cette sécheresse, alors des espèces avec des petites feuilles, parce que quand vous avez des petites feuilles, eh bien, ça limite la transpiration, hein, qui est quand même le moteur du cycle de l'eau au niveau de la plante. Et puis, vous pouvez avoir des feuilles qui sont recouvertes d'une couche de cire, toujours pour limiter cette transpiration. Et donc, c'est intéressant parce que, en plus, évidemment, quand on regarde donc ce que pourrait être la forêt française dans 50 ou 80 ans, eh bien, on se tourne naturellement sur ce qu'est actuellement la forêt méditerranéenne, avec justement cette adaptation importante à des phénomènes qui vont gagner à coup sûr.
Mais alors, elle s'adapte bien ou elle est concrètement dangereusement menacée? Alors, j'arrive pas à comprendre exactement.
Ouais, alors, elle s'adapte globalement bien, mais il y a quand même effectivement un certain nombre de phénomènes de dépérissement, de mortalité de certaines espèces. Mais si on prend par exemple une espèce emblématique de la région mais des forêts méditerranéennes qui est le pin d'Alepe,
oui.
Eh bien, on sait que le pin d'Alepe, c'est une espèce qui, dans le bassin méditerranéen, est capable de se développer avec des précipitations très basses et donc qui est parfaitement adapté à la fois à cette sécheresse et en plus aussi au feu. Et donc, ce type d'espèces, c'est pas celles qui vont souffrir en premier du changement climatique. Mais malheureusement, il y a d'autres menaces pour la forêt méditerranéenne au niveau de l'urbanisation, notamment de la littoralisation, comme on dit. Donc
la pression anthropique. Alors, voilà.
Justement, ouais, voilà, Clémentine Azam, est-ce que par exemple aussi la pollution de l'air et la pollution des sols avec les produits phytosanitaires a un impact sur les forêts au-delà du changement climatique et de l'urbanisation?
Oui, tout à fait. Ça peut avoir un impact. C'est vrai que ça fait pas partie, en tout cas là, des menaces qu'on a identifiées en priorité, notamment parce que je pense que ce sont aussi c'est pas évident à mesurer. Et que voilà, finalement, nous on se base sur des données qui existent, mais il faut que ces données soient en fait présentes et mesurables. Donc c'est vrai que par rapport à la force des changements climatiques ou d'artificialisation du littoral et d'urbanisation, ce ne sont pas ces éléments-là qui sont ressortis le plus fort.
Autour des feux de forêt en Méditerranée, on écoute ce court reportage de France 3. C'était en juillet 2017 avec Bruno Tessier-Ducrot de l'ONF.
En survolant l'arrière-pays varois, on découvre d'immenses étendues gris anthracite. Les collines boisées de Bormes-les-Mimosas entièrement calcinée. Cette maison est miraculeusement intacte, et pourtant juste à côté, il ne reste plus rien des pins centenaires. 1600 hectares de forêt décimés, à perte de vue.
Mais là, on est sur un pin parasol qui doit avoir entre 60 et 70 ans.
Un désastre écologique, ce site abritait 6 espèces d'arbres. Pour retrouver la forêt d'il y a 3 jours, il faudra sans doute plusieurs décennies. Les spécialistes déconseillent un reboisement.
Quand on veut réhabiliter un milieu, il est urgent d'attendre. Il est clair que dans 10 ans, on ne verra plus forcément, on verra les traces, mais ça ne sera plus rédhibitoire comme on le voit à l'heure actuelle.
Ces forêts du Var garderont pendant plusieurs années les stigmates de ces incendies.
Thierry Gauquelin, rapidement, est-ce que ces incendies, c'est une menace pour l'extension des forêts méditerranéennes ?
Alors bien sûr, c'est une menace. Alors c'est une menace si évidemment ils sont avec une intensité très importante sur des superficies très importantes.
Ouais.
Il faut savoir quand même que le feu au niveau des forêts méditerranéennes, c'est en quelque sorte une composante de l'écosystème. Alors évidemment, quand il y a des habitations à proximité, etc., c'est un problème majeur. Mais on peut aussi voir le feu comme un moyen de régénérer la forêt, notamment la forêt méditerranéenne. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut intégrer. Par contre, ce qui est important, si on prend par exemple l'exemple de la des forêts de chêne-liège, ce qu'on appelle les suberets, hein, eh bien, c'est le chêne-liège, c'est une espèce typiquement qui, grâce à son épaisseur de liège sur le tronc, eh bien, qui joue un rôle isolant, va être une espèce qui va finalement être assez résiliente par rapport au feu, hein. Par contre, ce dont on s'est aperçu que si par contre on a une occurrence des feux qui devient trop importante, un feu tous les 60 ans, 70 ans, c'est pas dramatique, mais si vous avez un feu tous les 15, 20 ans, eh bien là, le système est complètement enrayé en quelque sorte. Vous avez des modifications très importantes au niveau du sol, etc. Et là, on rentre dans des perturbations d'ordre majeur.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura d'autres questions pour vous, Thierry Gauquelin et Clémentine Azam, puisque vous êtes les invités de la Terre au Carré pour parler de la forêt française.
France Inter. La Terre au Carré.
14h32, on passe au vert avec du foot, Camille Cronier.
Oui, à moins que vous ayez été coupé du monde dans une grotte jusqu'à maintenant ou que vous appeliez Mathieu Vidard, il ne vous aura pas échappé que la France joue ce soir son premier match de l'Euro 2021 en Allemagne à Munich. Coup d'envoi 21h pour les infos pratiques. Euro de football très spécial hein, puisqu'il a lieu dans 11 villes de 11 pays différents. Pratique, n'est-ce pas ?
Oui.
51 matchs au total joués. Je vous fais le tour complet en Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Angleterre, Écosse, Roumanie, Hongrie et Azerbaïdjan et Russie. J'allais redire Pays-Bas, mais je l'ai déjà dit. Autant vous dire que les écolos bondissent, hein, beaucoup trop de voyages et donc d'impact sur la planète, tout ça. La BBC a d'ailleurs calculé que la Suisse, par exemple, si elle va en finale, aura parcouru 21 656 km. Un tour du monde, ses supporters avec. L'UEFA organisatrice assure pourtant que ce sera la compétition la plus respectueuse en matière d'environnement à ce jour et nous sort la carte de la compensation avec des arbres plantés dans chaque pays hôte. J'ai donc tenté d'en savoir plus, mais ils n'avaient personne à l'UEFA pour me répondre, et donc ils n'ont pas donné suite à mes questions écrites. Du côté de l'équipe de France, soyons chauvins, ça a longtemps été ça. Voilà, du vent qui souffle très très fort, mais alors fort. 3 semaines que je tente de me faire accréditer à une conférence de presse des Bleus, y compris en visio, mais non. Personne non plus à la Fédé pour me répondre. Bon, j'ai fini par avoir des éléments par écrit hier et voilà ce qu'ils me disent.
La Fédération française de football aborde la question de la protection de l'environnement dans son ensemble. Elle ne raisonne pas en termes d'impact propre d'une activité en particulier, comme les Bleus à l'Euro, mais en termes d'impact global. De ce fait, la FFF porte une bonne partie de ses efforts sur le football amateur, qui concerne des milliers de personnes chaque semaine, en bonne partie de jeunes à sensibiliser.
Et elle donne quelques mesures concrètes aussi dans le mail sur l'équipe de France. Gourde plutôt que bouteille plastique. Maillot en plastique recyclé et déplacement en train quand c'est possible, hein, mais pour l'instant, seules les féminines l'ont fait. Là, pour l'Euro, les garçons, c'est un avion hein, privé, comme toutes les équipes, les Belges par exemple, qui eux m'ont répondu en vrai. J'ai eu Frédéric Verhagen ce matin.
Je suis suffisant en charge de tout ce qui est opération, c'est-à-dire l'organisation des matchs, la gestion du centre national, la sécurité, les voyages.
C'est bon, c'est notre homme, Mathieu.
On le tient.
On est conscient, évidemment, que des grandes compétitions égale voyage, voyage égale consommation. Donc, ce qu'on essaye, c'est de rationaliser au mieux ou travailler de manière raisonnée, en limitant le nombre de vols, en limitant la capacité des avions, en regroupant les gens pour ne pas multiplier les déplacements.
Avec avion de 64 places pour les Diables Rouges, et des efforts sur le matériel. Les maillots, par exemple, alors juste tout à l'heure, je disais des maillots en plastique de l'équipe de France, c'est du synthétique, hein, donc c'est du plastique, mais c'est un petit raccourci. Donc les maillots des Diables Rouges, comment ça se passe?
D'abord, nous avons un budget à respecter, donc on ne jette pas, même les maillots. Donc les maillots qu'ils reçoivent, ils les portent et on les relave et ils les reportent. Y compris quand ils les changent à la mi-temps pour des questions de propreté ou d'image aussi des partenaires. Deuxièmement, notre laverie, elle est sur notre site. Et comme nous utilisons des eaux récupérées, on diminue l'impact de notre nettoyage.
Parce que le camp de base se met lui aussi au vert. Frédéric Verhagen m'a décrit les panneaux solaires, l'éolienne pour être autonome en énergie, la récupération de l'eau pour arroser les terrains sans produits phytosanitaires aussi, les ruches et même le potager et le verger à venir. Un nombre de bouteilles plastiques limité également, comme à Clairefontaine d'ailleurs. Et alors les joueurs là-dedans, est-ce qu'on les entend sur le sujet?
Oui, ça serait bien.
Alors comment vous dire?
Salut les amis, salut la team Grisier, les fans de foot. Bon, vous savez qu'il y a un jeu qui vient d'arriver dans le Game Pass. Et toi, Antoine, pour fêter ça, il a décidé d'offrir 5 Xbox.
Bon, ça c'était Antoine Griezmann il y a quelques mois sur Instagram. C'est sa dernière vidéo. Alors, il y a eu plein de photos depuis, mais c'est sa dernière vidéo. Pendant que Kylian Mbappé, lui, en dernière vidéo, fait pareil en anglais avec un nouveau jeu vidéo.
Hi guys, it's Kylian. Just wanna show you something.
Alors, aucune prise de parole en fait, hein, jamais sur l'environnement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils s'en cognent les joueurs de foot, ne le pensez pas. C'est ce que pense en tout cas Michael Correia, il est journaliste à Mediapart spécialisé sur le climat et auteur du livre Une histoire populaire du football.
Ils sont conscients de ce qu'on appelle le rôle modèle aux États-Unis. Ils sont conscients de la portée sociale, la portée politique de leur discours. Donc, je pense vraiment pas que c'est du jugement footisme. Je pense que c'est vraiment plutôt une question de libération de la parole des footballeurs dans l'espace public.
Parole neutralisée longtemps, hein, parce que les joueurs, on l'oublie pas, sont des produits avec des sponsors, mais cette libération se fait. Griezmann d'ailleurs a arrêté, je sais pas si vous vous en souvenez, un contrat en soutien aux Ouïghours. Et ce soir, les Bleus s'agenouilleront sur la pelouse à Munich pour dénoncer le racisme et les violences policières.
Pour moi, c'est encore un peu tôt. Là, on arrive tous depuis un an à une phase de joueurs qui se positionnent clairement dans l'espace public. Je pense qu'on va commencer à voir ensuite à émerger cette question-là plus écologique.
Alors, il table sur la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022 pour que l'écologie devienne un sujet, dans la bouche des joueurs en tout cas. Pour revenir à l'euro, je signale que les fédérations allemandes et néerlandaises m'ont répondu par écrit. Elles parlent, elles aussi, de compensation carbone, tout en promettant de diffuser le message pour sensibiliser. Frédéric Verhagen, le directeur des opérations des Belges, reconnaît la marge de progression.
Je suis d'accord que c'est pas quelque chose qui transpire au niveau international, mais nous, fédération belge, on y est très attentif et on est déjà dans la vision verte de la gestion. Là, on n'est pas en compétition avec les autres, on travaille tous pour notre planète et on doit tous l'aider.
Qu'est-ce qu'il dit, c'est pas une compétition?
Alex Vizorek, dis donc, mais Belges de la planète Terre, enfin, qu'est-ce que vous faites là?
C'est pas une compétition, mais on veut quand même la gagner cette fois-ci, parce qu'il y en a marre de se la faire piquer par nos voisins français. Donc, alors, ok, si on peut économiser un peu de CO2, mais d'abord la victoire. Après, éventuellement, tout ce qui est toilettes sèches. Mais d'abord, c'est la gagne. Allez les diables.
Et allez jeudi aussi pour juste cette semaine, allez la Belgique, jusqu'à ce que les Bleus arrêtent de mettre des vents à l'écologie. Ouais. Et je vais me faire beaucoup d'amis.
Voilà, l'écologie résumée aux toilettes sèches. Ben pourquoi pas. En tout cas, c'est Camille Passauvert. C'est à écouter sur franceinter.fr.
Clémentine Azam, juste en un mot, les compensations, par exemple, dont parle l'UEFA en plantant des arbres dans chaque pays hôte, ces plantations d'arbres, est-ce que ça devient vraiment l'argument de bonne conscience pour continuer de polluer de l'autre côté? Est-ce que c'est un impact véritable sur les forêts?
Bah, tout dépend ce que la façon dont elle est mise en place. C'est sûr que planter des arbres, comme vous disiez avant, en monoculture ou des arbres exotiques, par exemple, ça n'aura aucun impact, que ce soit pour lutter contre les changements climatiques ou alors ça pourra
absorber un peu de carbone.
Voilà, mais ça peut, à la marge, mais ce sera surtout contre-productif parce que ça aura aucun intérêt pour la biodiversité.
Ouais. L'équipe de foot qui soutiendrait la forêt française serait de la gueule quand même, non? Vous trouvez pas?
Oui, tout à fait. Ça serait bien pour soutiennent le comité français de l'UICN.
Ah bah oui, bien sûr, corporate. Hein.
Qatar 2022, on n'y est pas encore.
Il y a du boulot aussi là-bas sur l'écologie. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de l'état de forêt, l'état de santé des forêts françaises. On y arrive. Gallagher's High Flying Birds avec We Are On Your Way Now.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Allez, dernière émission de la saison en partenariat avec le comité français de l'UICN et avant le congrès mondial de l'UICN qui aura lieu donc en début du mois de septembre à Marseille. Et nous y serons avec la Terre au carré, nos invités Clémentine Azam et Thierry Gauquelin. On parlait des incendies tout à l'heure, Clémentine Azam. En Méditerranée en particulier, c'est une menace réelle pour l'avenir, ça ?
Oui.
À l'instar de ce qu'on voit à l'étranger, Australie, Californie, Sibérie, Amazonie.
Oui, c'est vrai que de ce que Thierry a raison en disant qu'en effet l'incendie fait partie du rythme en fait et des composantes un peu naturelles de la dynamique des écosystèmes forestiers méditerranéens, mais c'est vrai que ce qu'on observe à l'heure actuelle avec les changements climatiques, c'est une augmentation de la fréquence de ces épisodes d'incendie, une extension de la saison propice aux incendies et aussi une extension géographique avec une augmentation en fait de l'exposition au risque vers le nord et l'ouest de la France. Donc on a certaines zones qui n'étaient pas forcément exposées à ce risque incendie auparavant qui commencent à l'être de plus en plus.
Et on pourrait voir ces méga-feux là qu'on décrit à l'étranger ou pas ?
Oui, c'est tout à fait c'est tout à fait envisageable parce que ça rejoint aussi la question du stress hydrique des arbres et de la sécheresse des arbres. Quand on a des finalement la quantité d'eau en fait dans les tissus est beaucoup moins importante et donc finalement on augmente la quantité de matière inflammable. Donc on a une augmentation en fait de la vitesse et de l'ampleur de la propagation de ces feux.
Une question de Fabrice sur franceinter.fr qui nous demande si les arbres ne connaîtraient pas aussi une augmentation du nombre de maladies ou d'attaques d'insectes, Thierry Gauquelin.
Alors bien sûr pour plusieurs raisons, parce que d'une part il y a un certain nombre de champignons ou d'insectes qui ont été dans les deux derniers siècles importés et même récemment ont été importés en Europe et donc qui commence à se développer dans des forêts entières, hein. C'est le cas par exemple de champignons de l'encre du châtaignier par exemple, hein, qui a été introduit. Donc c'est important à ce niveau-là de voir. Et puis deuxièmement, parce que vous avez aussi un certain nombre d'insectes ou de champignons, de ravageurs qui peuvent être favorisés par le changement climatique.
D'autres questions?
Et ces deux facteurs conjugués, eh bien, font qu'on a effectivement, dans certains secteurs, s'ajoute à ça, parfois, le fait qu'on a effectivement, on en a déjà parlé, des monocultures ou des forêts monospécifiques. Et là, eh bien, quand, par exemple, un champignon se met à dévaster une forêt constituée d'une seule espèce, eh bien, évidemment, c'est toute la forêt qui va être atteinte.
Ouais. Question ou témoignage?
C'était justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Gilles, qui nous dit ne pas confondre forêt et plantation d'arbres, ce n'est pas le même impact sur la biodiversité, Clémentine Azam.
Une forêt, c'est un écosystème. Alors, une plantation, c'est aussi un écosystème, mais énormément simplifié. C'est-à-dire que il est composé souvent d'une seule essence et voire en plus avec aucune diversité génétique, où on a aussi beaucoup de clones qui sont plantés. Et donc, ça rejoint ce qu'on parlait sur la résilience un peu auparavant, c'est que du coup, ce sont des déboisements qui sont extrêmement fragiles à la moindre perturbation. Alors que une forêt, un écosystème, c'est un écosystème forestier. C'est l'ensemble des espèces qui s'y trouvent, et plus il aura de la diversité génétique, de la diversité en termes d'espèces et de la diversité en termes de structure d'âge, plus il sera résistant à toutes ces perturbations.
Allez, on aura encore quelques questions pour vous dans un instant. Et c'est l'heure de vous retrouver, Caroline Gillet, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On vous retrouve pour la suite de votre reportage. On s'intéresse cette semaine à l'environnement sur les aires d'accueil des gens du voyage. Et pour ce deuxième épisode, on retourne en périphérie lilloise.
Oui, hier on a rencontré Pruna Demestre, une jeune femme de 19 ans, qui nous a montré l'état catastrophique d'un point de vue sanitaire et écologique de son aire d'accueil. Pruna fait partie d'un collectif de femmes qui milite depuis des années pour que les 200 habitants et habitantes de l'aire d'accueil d'Hellem-Ronchin soient relogés. Aujourd'hui, Pruna nous emmène voir cette tantes, Sue-Hélène et Carmen, qui ont cofondé ce collectif. Il y aura aussi, vous l'entendrez en arrière-plan, Simone. Mais juste avant, là, ce que vous entendez, c'est un extrait du petit film « Nos poumons, c'est du béton » qu'elles ont réalisé ensemble pour dénoncer leurs conditions de vie. On part les rejoindre donc dans leur chalet. En chemin, Pruna me montre le chemin aspergé aux pesticides qui longe l'aire d'accueil et qui présente une autre source de pollution. Donc, on passe par une petite porte dans le grillage et juste derrière, il y a un grand tas de terre. Et puis un champ.
Le fermier vient et en fait il récolte son blé.
Mm-hmm. Comme tu le sens là, il y a le vent, donc il va tout venir en fait, tout le blé qui reste coincé dans sa machine, tout vient sur nous. Donc c'est peu agréable pour vous dire, et à la fin ça gratte pour enlever ces vêtements parce que ça reste collé et ça gratte toute la journée. Après on a des plaques rouges en fait, ceux qui sont allergiques et tout.
Ici, on rentre dans un petit chalet.
Alors là, c'est ma...
Bonjour,
c'est ma tante qui fait partie du collectif Céline une défendratrice. Et là, il y a aussi mon oncle.
Enchanté.
Il y a deux petits chiens.
Voici vous.
Merci.
C'est le petit noir qui joue beaucoup avec l'autre.
Collage, ça me chole. Jouquel.
Au tout début, comment est-ce que l'idée est venue de faire un collectif de femmes plutôt qu'un collectif différent et puis de s'engager de cette façon-là?
C'est parce que les hommes chez nous, pour eux, ce serait comme se rabaisser, aller demander de l'aide aux sédentaires parce qu'ils savent très bien que ça va pas donner. Mais comme les femmes voient très bien les problèmes de santé qui touchent leurs enfants, les personnes âgées, c'est eux qui font le ménage, qui voient la poussière et qui s'accumulent. C'est eux qui en avaient marre et qui voulaient se battre. Donc les femmes se sont quand même rebellées. Après 8 ans, on va dire qu'on nous entend, mais on nous écoute pas. Voilà, c'est plutôt ça. Vous imaginez, le terrain est entre une concasserie, une bétonneuse, un champ de pesticides, et on entend très bien le train. Si vous venez dans le terrain actuellement, vous voyez la poussière aux yeux nus, là, directement.
Même quand on met une piscine dehors pour les enfants, il y a la poussière dedans, c'est incroyable. Jamais vu ça. Je peux pas mettre même pas de piscine l'été, là. Je sais pas comment on va faire, là. Bah, c'est vrai que le cas, c'est par rapport à la piscine, c'est carrément pas de la poussière, c'est des petits gravats tout noirs. On voit que c'est du ciment, quoi.
Et donc, ça a consisté en quoi, les types de mobilisation que vous avez mis en place ?
On a eu une dernière manifestation, comme d'habitude, on a marché jusque la Mel. Là-bas, ils nous ont rencontrés, ils nous ont fait des belles promesses comme quoi qu'on allait être relogés dans les 2 mois à venir. On a vraiment cru cette fois-là qu'on avait gagné le combat. Mais on s'est rendu compte encore une fois qu'ils nous ont pris pour des cons parce que c'était juste du blabla pour nous calmer. Et on est tombé dans la pandémie, confinement et tout ça. Et depuis, on n'a plus de réponse. Ça fait de là 7 ans qu'on attend leurs promesses.
Est-ce que vous avez reçu à un moment des testeurs d'air et de pollution sonore ?
Le seul...
Alors, tout le monde rigole là quand je pose cette question.
Le seul test qu'on a eu, vous l'avez vu dans le film, c'est une plaque en fer. Est-ce que vous croyez que ça peut tester avec ça ?
C'est une plaque en fer qui est au bout d'un piquet, qui est planté dans le sol. Et en fait, l'idée, c'est de mesurer s'il y a de la poussière sur cette plaque en fer.
Mais la poussière, elle reste pas. C'est une plaque, je sais pas moi, il pleut, il y a du vent, elle s'en va.
Et quelqu'un est venu prendre des résultats ?
Oui, on a eu des résultats du test avec ça. Ils ont le culot de dire que apparemment c'est vivable. Et ils comprennent pas que, justement, ceux qui sont dans les HLM ou qui ont des aides et tout ça, on n'a pas tout ça, nous. Ils veulent nous sédentariser. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas riche, on touche le RSA et tout ça. Et ils nous laissent dans notre pauvreté. Ils nous laissent dans l'environnement pourri. Et après, la France, ils disent qu'ils font quelque chose pour les Français. Mais qu'est-ce qu'ils font pour les gens du voyage alors qu'on est Français?
Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez lui souhaiter, quelqu'un comme Pruna? Ou comme les jeunes de sa génération?
Avoir une belle vie. Surtout ne plus vivre là où nous sommes. Et puis j'aimerais bien qu'elle vit mieux, qu'elle vit mieux. Ouais. En plus, voilà.
Bah oui. Comme ça, elle restera pas ici.
Tu cherches un mari, Pruna ?
Non, dans l'instant.
Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous le conseille, vous retrouvez le film du collectif de femmes « Nos poumons, c'est du béton » sur la page du reportage « La Terre au carré » sur franceinter.fr.
Demain, Caroline.
Demain, on part pour Toulon, rencontrer William Hacker, jeune juriste issu de la communauté des voyageurs, qui s'est dit que pour que les choses changent, il fallait commencer par recenser les aires d'accueil et la pollution qu'on y subit. C'est ce qu'il a fait.
Eh bien, on vous suit demain à la même heure. Bonne journée.
Bonne journée.
Le ciel est cousu d'or. Doucement, je me rendors. Je veux encore rêver de toi. Rêver que chez l'aurore d'un amour qui vient d'éclore.
Lisa. Dahl, c'était l'aurore. Camille, les questions des auditeurs sur franceinter.fr.
Ah ouais, une dernière question de Bénédicte qui demande, Clémentine Azam, s'il existe encore des zones forestières sauvages non contrôlées pour une exploitation quelconque.
Oui, on peut les trouver dans certaines aires protégées. Notamment, ça peut être les cœurs de parcs nationaux ou encore des certaines réserves biologiques où il y a du coup les forêts qui sont laissées en libre évolution. Et c'est vrai que là, dans cette stratégie d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques, il y a un réel enjeu à renforcer ce maillage d'espaces laissés en libre évolution pour justement favoriser l'adaptation des forêts au changement climatique.
Clémentine Azam, Thierry Gauquelin, merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes de France Bleu Provence pour ce duplex. Et puis bien sûr, on retrouvera l'UICN à la rentrée pour le congrès mondial qui se déroulera à Marseille. Et on se quitte comme tous les mardis avec la chronique de reporters.
France Inter, la Terre au carré.
Bonjour Lorraine Lavocat.
Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Alors dimanche va se tenir le premier tour des élections régionales et c'est l'occasion de rappeler que les régions jouent un rôle important dans la transition écologique.
Tout à fait, les régions sont un échelon essentiel, à la fois proche des gens, mais de taille significative. La Nouvelle-Aquitaine, par exemple, est grande comme deux fois le Danemark, tandis que l'Île-de-France compte autant d'habitants que la Belgique. Des territoires importants donc, mais surtout, les régions disposent de nombreuses compétences écolo, souvent méconnues d'ailleurs. Ce sont notamment elles qui gèrent les TER, les trains express régionaux. C'est un levier essentiel qui représente jusqu'à un tiers de leur budget. Une région peut ainsi décider d'ouvrir de nouvelles lignes, d'augmenter la fréquence des trains, de proposer des places pour les vélos dans ses wagons. Elle peut aussi développer des tarifs réduits pour inciter les gens à préférer le rail à la route.
Parce que les régions sont aussi de grandes financeuses de la transition écologique lorraine.
En effet, elles attribuent plus des trois quarts des aides de l'Union européenne, en particulier les aides agricoles. Alors sans avoir totalement carte blanche, elles ont une grande marge de manœuvre pour distribuer cet argent. Une région peut ainsi soutenir l'agriculture bio ou l'installation de nouveaux paysans. De la même manière, elles peuvent subventionner des centrales photovoltaïques, des parcs naturels ou des voies vertes. À l'inverse, aujourd'hui, plusieurs régions financent des projets climaticides comme des aéroports ou des routes. Alors attention tout de même à ne pas les surestimer car les moyens des régions restent limités. Leurs investissements représentent moins de 2% de la dépense publique totale.
Et alors Lorraine, les régions sont aussi en charge du Stradet. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors le Stradet, c'est le schéma d'aménagement du territoire. C'est l'instrument phare de la région pour mettre en œuvre la transition écologique. Concrètement, il fixe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre au niveau régional, mais également sur l'énergie, la biodiversité ou sur les déchets. Surtout, on dit que ce schéma s'impose aux autres collectivités, ce qui veut dire que les communes ou les intercommunalités doivent intégrer les objectifs régionaux dans leur politique. Dans l'idée, c'est donc un outil très puissant, mais dans les faits, ça ne marche pas aussi bien. En effet, si on additionne aujourd'hui tous les SRADET, on n'entre pas dans les clous de l'accord de Paris sur le climat. Ces feuilles de route pêchent, soit par manque d'ambition, soit par manque de mise en œuvre concrète. En clair, ce sont bien souvent de belles coquilles, vertes, mais vides. À ce propos, l'Observatoire de la transition des territoires a lancé un enviroscore qui permet d'évaluer les efforts climatiques des collectivités. Et les résultats ne sont pas brillants. Aucune région ne dépasse la note de 11 sur 20. Il y a donc du pain sur la planche pour les équipes qui seront élues le 27 juin.
Merci beaucoup Lorraine Lavocat. Et puis bien sûr, on retrouve votre article sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. À très bientôt.
Au revoir Lorraine.
Au revoir.